Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour mon cher Vincent.
Et bonjour Fabrice, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vincent Renaud sur Nutri Radio comme chaque mardi. Merci à notre partenaire laboratoire COPMED Uriac France de nous soutenir dans cette mission de vous proposer des émissions pour une meilleure compréhension de votre santé, une meilleure compréhension aussi des actifs de santé naturelle, de la médecine à orientation fonctionnelle et donc de la santé intégrative. Vous rendez-vous aussi sur www.nutritv.fr publicité pour deux choses. La première, cette émission Expérience Santé que vous découvrez nombreux. Merci à vous pour votre soutien. Et si vous allez sur YouTube, vous pouvez la voir aussi. Pensez à, si vous voulez, hein, voilà, j'ai l'impression de vous solliciter énormément, mais pensez à donner un petit like, un petit pouce vers le haut, comme diraient les autres, et à vous abonner à la chaîne. Merci. Bon, on va continuer notre voyage dans les eaux de l'être humain, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé de l'ostéoporose, on a parlé de plein de choses, des actifs aussi intéressants pour une meilleure prévention, une meilleure aussi approche naturelle. Évidemment, ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Donc si vous avez un petit problème, renseignez-vous et rapprochez-vous de votre professionnel de santé, ça vous le savez. Et on a terminé l'émission la semaine dernière en disant il y a encore plein de choses à dire, mon cher Vincent.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que l'os est une matière vivante qu'on connaît peu. On l'assimile surtout effectivement au maintien du squelette. On a tous eu un squelette dans la salle de sciences nat quand on était petit. Ça me rappelle un film en noir et blanc, un très très vieux film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Fabrice, où ils sont dans une petite classe et il y a un monsieur qui apparaît la nuit mais qui se transforme un peu avec une forme de squelette.
C'est pas Belphégor, rien à voir.
C'est rien à voir avec Belphégor. Mais je me rappelle déjà dans ma salle de bio, maintenant on parle de SVT, Sciences et Vie de la Terre. Nous, dans la salle de bio, il y avait un squelette. Alors on lui avait donné un surnom, mais je me rappelle plus de ce surnom. C'était pas Arthur ou je sais plus, salut Arthur. Donc le matin, on salue Arthur. Et c'était ce squelette qu'on a tous vu dans nos salles dans nos cours de biologie. Alors l'os, il a plusieurs fonctions. Il faut qu'il assure déjà une certaine forme de solidité. C'est supporter le poids du corps, donc c'est quand même important, avec toutes les contraintes mécaniques que cela suggère. Mais enfin, en même temps, il faut qu'il soit relativement flexible pour absorber les chocs et éviter la casse. Il faut qu'il s'adapte, ça c'est très important. Remodelage osseux constant, on l'a dit, tous les 3 mois. Qui dépend de notre alimentation, de notre activité physique, de l'environnement dans lequel on vit. Il faut qu'il soit relativement léger, donc pour coûter moins cher en termes de consommation d'énergie. C'est pour ça qu'il a une structure un petit peu spongieuse à l'intérieur. Et puis vous avez une espèce d'architecture osseuse constituée de fibres de collagène, donc on en reparlera. Il y a énormément de protéines qui font des espèces de mailles, une construction. C'est une architecture osseuse qui est relativement spongieuse pour pouvoir justement permettre donc déjà d'être un faible coût énergétique et relativement léger, mais surtout une certaine flexibilité. Et en fait, l'os, plus il maintient cette flexibilité grâce à la capacité de résorption et de réparation, moins il risque de casser. C'est paradoxal, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se baser que sur la densité osseuse, où on va dire oui, j'ai un os qui est très dense, mais s'il n'est pas flexible, s'il n'a pas cette capacité justement de résorption assez importante, et c'est là où on parlera justement des tests, des biomarqueurs, et ben, l'os peut casser beaucoup plus facilement. Donc il faut qu'il résiste, mais qu'il ne casse pas, un peu comme un bambou qui va plier lors d'une grosse tempête, mais qui va résister et qui va retrouver sa forme. Donc ça, c'est évidemment des notions qu'on n'avait pas trop. Il faut vraiment connaître que voilà, tous les types de cellules que l'on trouve. Et pour moi, il y a deux cellules importantes qu'il faut connaître. Il y a les ostéoblastes, qui sont les jeunes cellules qui vont venir faire de la matrice osseuse et qui vont faire la minéralisation, qui sont responsables de la matrice. Et puis, vous avez les ostéoclastes, qui sont des vieilles cellules qui sont évidemment dans la partie de la résorption osseuse, c'est-à-dire la dégradation de la matrice. Donc, c'est un peu l'image que je donne à mes patients, c'est cette image d'un tapis roulant. Quand les ostéoclastes, qui sont des cellules sénescentes et vieillissantes, commencent à dégénérer, elles partent et elles sont remplacées par les ostéoblastes, qui sont les jeunes cellules. Et c'est exactement le principe de la résorption osseuse. Et donc, l'équilibre entre les ostéoblastes et les ostéoclastes, c'est ce qui va nous permettre d'établir une bonne stabilité dans le système de catabolisme ou d'anabolisme. L'anabolisme, c'est je fabrique de l'os, du muscle, ce que vous voulez, et catabolisme, je détruis. Et donc cet équilibre entre les deux, il doit être maintenu si on veut maintenir une bonne santé osseuse. Et pour ça, il faut des hormones qui soient au top, une alimentation qui soit au top, et une activité physique qui permette justement de maintenir une bonne densité et un bon maintien.
Alors, cher Masson, on va quand même s'attacher maintenant à détailler peut-être certains actifs pour déjà éviter de toute façon les inconvénients, on va dire, de l'âge, puis aussi peut-être dans un deuxième volet, voir s'il y a un lien entre les deux directement. Vous savez, chez le sportif, ceux qui courent énormément, qui sollicitent beaucoup leurs articulations, les os, est-ce qu'il y a aussi des actifs à envisager? Par exemple, je vous en cite quelques-uns dans le désordre, vous me dites ce que vous en pensez. Bon,
Vitamine D, K2, ok, je vote. Je le mettrai dans le top 3.
D'accord, ça c'est pour...
Ah oui, au minimum 4000, voire chez un sportif régulier. Là, j'en ai récemment eu un qui a fait une fracture de fatigue. Pourtant, il prenait sa vitamine D régulièrement, 4000 unités. Mais je pense que vu sa corpulence, c'est un sportif de haut niveau qui fait plus de 2 mètres, qui pèse 100 kilos.
C'est un judoka, ça.
et donc, fracture de fatigue, alors qu'il avait 4000 unités. Bon, je lui dose sa vitamine T, elle était relativement bonne, elle était aux alentours des 50-60 nanogrammes par millilitre. Je rappelle que les valeurs de référence de la vitamine D ne sont pas du tout celles qu'il y a sur les laboratoires, qui sont délivrées par les laboratoires, qui étaient celles d'il y a plus de 50 ans qu'on donnait pour la prévention du rachitisme chez les nourrissons, donc on n'en est plus là du tout. Là, pour un sportif de haut niveau, en fait, il faut monter à 8000, voire 10 000 unités de vitamine D, et toujours l'associer à la vitamine K2. Est-ce que j'explique pourquoi il faut associer la K2?
Alors oui, expliquez-le, mais avant...
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Voilà, consultez, parce qu'il faut d'abord faire des bilans en vitamine D pour savoir si vous en avez besoin, quelle quantité. Et là, les recommandations du docteur Vincent Renaud, c'est général, bien évidemment, ça ne s'adresse pas à vous en particulier. Donc avant toute supplémentation, et surtout en vitamine... je vais aller à toutes les complémentations, mais voilà, faites attention, soyez vigilants, il faut personnaliser tout ça. Rendez-vous chez votre médecin et faites les analyses pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut à vous au niveau quotidien ou si c'est des doses un peu plus costauds une fois de temps en temps. Donc pourquoi la K2?
Alors la K2, en fait, elle est complémentaire de la vitamine D. Je rappelle juste que la vitamine D augmente l'absorption du calcium au niveau intestinal et ralentit l'élimination du calcium au niveau rénal. Donc du coup, effectivement, la balance calcique, grâce à la vitamine D, va augmenter. Donc ça fait monter la calcémie, alors avec les risques si on développe une hypercalcémie. Alors très important, là je parle de biologie, quand on dose la vitamine D, il faut faire aussi la calcémie, la phosphorémie et la PTH, qui est la parathormone. Parce que si vous avez effectivement un excès de parathormone, attention à ne pas donner trop de vitamine D, parce que vous allez faire monter la calcémie, vous risquez de faire des calculs rénaux. C'est pour ça que Pollux a raison. Tout ça, bien sûr, ça se fait avec un avis médical. On dose la vitamine D, et plus particulièrement la 1,25-hydroxyvitamine D, qui est la forme active. On dose la PTH, parathormone, la calcémie, si possible, corrigée, puisqu'il y a deux types de calcémie, et la phosphorémie. Déjà pour, évidemment, vérifier le bilan phosphocalcique. Si on peut faire même une calciurie, c'est même mieux. Comme ça, on voit le degré de fuite urinaire du calcium. Alors, la vitamine K2 est une vitamine liposoluble qu'on trouve et qui est synthétisée. C'est une des rares vitamines que le corps humain s'est synthétisé. Comme la vitamine D, la vitamine D est synthétisée en grande partie par la peau. Mais pour ça, il faudrait s'exposer en grande partie, 1 à 2 heures par jour au soleil, à peu près à moitié nu, 50% de la surface corporelle. Et donc, une fois que la vitamine D a été synthétisée au niveau de la peau, elle se lie à la vitamine K2 qui est produite par le microbiote. Malheureusement, on sait tous qu'on a une dysbiose pratiquement dès la naissance avec notre mode de vie, la prise des médicaments. Et la K2, aujourd'hui, elle se fait relativement rare dans notre alimentation et dans la synthèse endogène via le microbiote. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment systématiquement supplémenter les patients qui prennent des doses importantes de vitamine D pour éviter les hypercalcémies. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la vitamine K? La vitamine K2, en fait, elle aide le calcium à trouver son chemin. C'est un schéma, mais si vous ne voulez pas que le calcium aille sur vos artères, par exemple, et donne des calcifications artérielles, ce qui n'est pas bon du tout pour votre santé cardiovasculaire, et si vous voulez que le calcium aille plutôt dans les os que sur vos tendons, que dans vos reins pour faire des lithiases rénales ou sur les artères pour faire des calcifications des artères, et ben prenez de la K2, environ 90 à 120 microgrammes par jour. Ça va aider au calcium de retrouver sa route, c'est-à-dire que le calcium qui va est augmenté par cette vitamine D, et ben il faut impérativement qu'il aille au bon endroit. Si vous faites une hypercalcémie et que vous ne prenez pas de K2, le calcium va être éliminé en grande partie par les reins et vous risquez de faire des calculs rénaux. Et ça, ce n'est pas terrible. Pas des calculs renaux, mais c'est des calculs rénaux, comme dirait Fernand.
Écoutez, c'est sur cette blague que nous allons marquer une petite pause, voyez-vous.
Fernand, vous connaissez?
Mais oui, Fernand Rénaux, l'eau férigineuse.
Ah, bah oui, ah, mais quelle culture.
Ah, carrément, tout ce qu'il faut, tout ce qui concerne l'humour,
c'est le truc. Un champion incollable, non, comme le Rion Cleben.
Par contre, on marque une petite pause et on se retrouve après ceci.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
On parle des actifs de santé naturelle pour, qui sont bénéfiques pour les os. On parlait de cette synergie K3, K2, en particulier là vous êtes revenu sur la K2, je vais vous en citer d'autres maintenant, le silicium par exemple, la silice.
Alors la silice c'est un précurseur du collagène, juste termine par rapport à la K2.
Oui pardon, je vous ai interrompu.
Une petite information, oui. Que j'ai pas eu le temps de dire dans la
cause de moi.
Partie,
à voilà. Cause de moi.
Que la K2, oui effectivement, elle aide le calcium à retrouver son chemin et aller plutôt vers les os, et surtout elle active une protéine qui s'appelle ostéocalcine, dont on reparlera dans les bilans puisqu'on peut la doser. L'ostéocalcine c'est une petite protéine qui lorsqu'elle est activée permet en fait de fixer plus le calcium au niveau osseux, d'activer la densité et la qualité de l'os, notamment sur de ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette espèce d'architecture, ces mailles qui sont à l'intérieur de l'os et qui sont constituées par du collagène. Donc par rapport au silicium et à la silice, c'est un précurseur du collagène, donc en fait il peut être intéressant. Il y a de la silice et du silicium un peu partout dans les tissus. Il n'est pas directement utilisé par les tissus, c'est-à-dire qu'on n'a jamais retrouvé du silicium dans les os. Par contre, on sait que le silicium va servir de matière première, d'ingrédient pour renouveler l'architecture osseuse, la réparer s'il y a évidemment des traumatismes. On va retrouver aussi du silicium. Alors, le silicium organique, choisissez bien la qualité du silicium. Soit vous utilisez des plantes riches en silicium, riches en silice, comme par exemple, on va voir Fabrice, parce qu'il nous a cassé les pieds avec son dictionnaire. Je suis une plante.
L'ortie.
Non, oui, un petit peu.
Ah, oui.
Je suis une plante, je commence par un P.
Oui, le plantain.
Et non, et j'apporte de la silice. Je suis la prêle. Je suis la prêle, bravo.
J'allais dire la pintade. Non, la prêle.
La pomme de terre, non, rien à voir. Non, parce qu'il nous casse les pieds avec son dico, là.
Le Nutridico,
et on est nul, et je vais lui montrer que lui aussi, il est nul.
Il n'a pas dit le contraire.
Donc, je suis la prêle, l'ortie, effectivement, c'est aussi une source importante de silice. Il y a je commence par la lettre B. Mmh. Je plie mais je ne casse pas
le bord.
Il y a une chanson qui dit il joue sur des dadadis
des bambous.
Bravo, le bambou et la prêle.
Ok.
Voilà. Oui, ça fait déjà deux ingrédients, deux actifs riches en silice, c'est pas mal, et qui contiennent du calcium, qui contiennent beaucoup de sels minéraux, un peu de magnésium aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, du calcium de bonne qualité, plutôt des citrates, comme je disais, éviter les carbonates de calcium. Et puis, il y a peut-être une autre plante qu'on a oubliée.
Oui, allez-y.
Je commence par la lettre L.
L.
Je suis une algue célèbre.
Bien sûr.
De couleur rouge.
De couleur rouge, évidemment.
Lithotam. Lithotam, oui, voilà.
Oh là là, d'accord, bon.
Bon, ça me rassure, il est aussi nul que moi, donc tout va bien.
Ah non, j'ai trouvé, vous ne m'avez pas aidé. Par contre, alors, le lithotam, dites-nous les propriétés un peu du lithotam.
Le lithotam, alors, il contient de la silice, il contient beaucoup de calcium, il contient beaucoup de sels minéraux très intéressants, mais c'est surtout qu'il est très alcalinisant. D'ailleurs, certains façonniers, certains fabricants de compléments alimentaires utilisent le lithotam, ne serait-ce que pour traiter l'équilibre acido-basique. C'est très alcalinisant, le lithotam. Ça apporte beaucoup de citrates et donc c'est intéressant pour, bien sûr, la prévention de l'ostéoporose. Donc on a parlé de l'équilibre acido-basique et surtout parce que le lithotam apporte calcium, sels minéraux donc, qui augmentent la densité, apporte de la silice et pas de collagène par contre, mais on s'en fout puisque la silice va servir de précurseur.
Alors justement, la silice, est-ce qu'on peut se complémenter, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui le font, sans forcément consulter un professionnel de santé, sans faire des bilans pour l'élasticité de la peau. C'est quelque chose qui peut se faire.
En tout cas, il n'y a pas de danger.
D'accord, voilà, il n'y a pas de danger.
Soit c'est pas efficace du tout et votre peau est toujours relâchée et que votre santé osseuse n'est pas améliorée. Certains le donnent, la silice, moi je l'associe avec le MSM, méthylsulfonylméthane dans les poussées d'arthrose. C'est intéressant parce qu'il y a aussi du collagène dans le cartilage. Il n'y a pas que dans l'os. C'est intéressant d'ailleurs le collagène pour la prévention et la prise en charge de l'arthrose, de l'ostéoporose. Donc du coup, on agit dans les deux parties de l'os. Vous savez qu'il y a la diaphyse qui est la partie centrale de l'os. Et de chaque côté, il y a évidemment les têtes articulaires qui servent à s'emboîter les unes sur les autres. Attention, pas de cochonnerie. À s'emboîter les unes sur les autres au niveau des articulations qui sont recouvertes de ce petit film transparent qu'on appelle le cartilage. Et tout ça, ça va être dans un liquide qui s'appelle le liquide synovial.
J'ai cru comprendre aussi que, alors ça n'a rien à voir avec les os, mais pour les artères, le silice, pour ceux qui font de l'hypertension notamment, est-ce que c'est pour la rigidité des artères?
C'est pas terrible, oui,
c'est pas terrible.
En très forte dose, comme le collagène. Moi je dis, faites des cures de collagène, dépassez pas les 10 grammes par jour, entre 5 et 10 grammes. Alors on va me dire, oui, c'est du collagène de type 1, de type 2, de type 3. L'autre jour j'ai eu une patiente qui m'a posé la question. J'avoue que quand on écoute les laboratoires, et je les en remercie parce qu'ils font un travail de terrain très très important, mais ils ont des collagènes différents, mais c'est toujours le meilleur que le voisin. C'est compliqué de se faire une idée. Alors, je ne sais pas si on a le droit de donner des noms de fabricants de collagène sur cette antenne, mais il y a deux leaders en France qui sont plutôt sur du collagène marin. Aujourd'hui, il y a le collagène bovin qui vient un petit peu sur le marché du collagène qui était en explosion, je crois, l'année dernière.
Ça, c'est normal, toujours d'ailleurs, mais vous savez, il y avait aussi cette idée qu'il y avait du collagène vegan, végétal, qui n'existe pas, mais qui sont des précurseurs de collagène. Mais bon, on en reparlera. Oui.
Oui, alors je voulais rajouter quelque chose sur le collagène, puisque si vous vous rappelez sur une émission de mon ami Jean-Paul Curtet, il avait dit que ça ne sert à rien de prendre du collagène, parce qu'on en fabrique nous-mêmes, et de toute façon il est mal absorbé. J'ai même entendu d'ailleurs, il faudra qu'on fasse quand même un petit retour sur le glutathion.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais vous dire, il a eu un avis sur le glutathion.
Ah, j'ai un peu bondi sur ma chaise, mais il a en partie raison.
Pas de digression, on va revenir dessus sur la prochaine émission.
Le collagène, c'est très intéressant.
Prochaine émission, on parle de glutathion, vous êtes OK?
Ouais, je suis d'accord.
Allez.
Mais le
calmez-vous, wesh.
Alors, le collagène, en fait, c'est souvent sous forme hydrolysée. Donc c'est déjà prédigéré par... du coup, ça évite à nos enzymes de découper en morceaux. Mais vous allez me dire, oui, mais si on découpe tout en petits morceaux, est-ce que le collagène va se refabriquer une fois qu'on l'a assimilé, qu'on l'a absorbé? Alors on sait, on avait parlé des protéines la dernière fois, qu'il y a beaucoup de différences d'une protéine à l'autre par rapport à la qualité de l'absorption, de la biodisponibilité. Déjà, un hydrolysat de protéines ou un hydrolysat de collagène, ça garantit quand même une meilleure assimilation. Maintenant, on n'a jamais la garantie à 100% qu'une fois que le collagène, en tout cas les hydrolysats, les petits brins d'acide aminé du collagène ont passé la barrière intestinale, on n'a pas la garantie que derrière, de l'autre côté, une fois que ça passe dans le sang, ça se reconstitue sous forme de collagène. Alors le collagène, de toute façon, il n'a jamais circulé naturellement en entier. C'est une longue protéine très complexe et elle est synthétisée dans l'os, dans le muscle, dans la peau. Et pour la synthétiser, il faut des précurseurs. Ce sont donc tous ces petits filaments d'oligopeptides, de chaînes d'acides aminés, de 4, 5, 6 acides aminés qui circulent et qui vont venir activer au niveau des ostéocytes, qui sont les cellules de l'os, puisqu'on parle de santé osseuse, et qui vont donner un petit peu le code pour pouvoir fabriquer le collagène et renouveler le collagène. Là aussi, on a parlé du renouvellement de la résorption osseuse. Le collagène, c'est pareil, à un moment donné, il finit par se dégrader et il est remplacé par un collagène un peu plus neuf. Et il a besoin de précurseurs, on a parlé de la silice, il a besoin d'oligopeptides pour se régénérer, pour refabriquer. Il faut effectivement en plus avoir un bon terrain au niveau immuno-inflammatoire, parce que si vous êtes en pleine poussée d'inflammation, pleine poussée d'oxydation, forcément vous allez avoir une qualité de collagène beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bonne. Et la reproduction et la réparation de ce collagène se fera moins bien. Donc les hydrolysats de collagène, qu'ils soient bovins ou marins, l'avantage, quand on mélange le bovin et le marin, on a plusieurs types de collagène. On sait qu'il en existe 3 aujourd'hui sur le marché, les collagènes de type 1, de type 2 et de type 3. Dans l'idéal pour la santé osseuse, c'est plutôt le type 1 qui est utilisé, donc plutôt le collagène marin. Après, on sait que le collagène de la peau ou le collagène des articulations. Alors, je ne sais plus exactement lequel est le type 2, lequel est le type 3. On va réviser ça, évidemment, pour vous donner plus d'informations sur Nutri Radio, parce que je sais que vous êtes très friands de ces informations et que vous êtes toujours en train de me dire, mais c'est le collagène 1, c'est le collagène 2. En tout cas, pour la résistance osseuse, c'est le collagène 1. Alors, il n'y a pas que du collagène, d'ailleurs, dans l'os. Il y a des glycoprotéines, il y a d'autres protéines non collagéniques, l'ostéonectine, l'ostéocalcine, l'ostéopontine, mais ça, on va pas rentrer dans le détail, mais je voulais quand même le dire, ostéocalcine, on peut le doser. Ça fait partie des choses importantes. Aujourd'hui, on a un autre biomarqueur intéressant qui est le procollagène de type 1 qui permet aussi de mesurer. Alors, il est relativement cher et pas remboursé encore, mais il permet de donner la qualité justement de renouvellement de votre collagène. Donc ça, je sais que dans la médecine anti-âge, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Moi, je recommande aussi de mesurer le facteur crosslapse CTX, c'est un marqueur de la résorption osseuse. On a dit que plus un os a une qualité de résorption élevée, plus il se renouvelle facilement et rapidement, c'est-à-dire dans les 3 mois, plus l'os va rester solide et va plier sans rompre, sans se casser. L'ostéodensitométrie reste un examen toujours d'actualité, mais ce n'est pas le seul. Il ne faut pas se baser que sur une ostéodensitométrie pour dire « Ouh, je risque de me casser un col du fémur ou de me tasser une vertèbre ». Donc doser, je répète, le facteur CTX crosslapse, demandez au médecin, la PTH, la parathormone, le calcium corrigé, la phosphorémie, le procollagène et l'ostéocalcine.
Alors, je voudrais maintenant vous parler d'autres micronutriments clés qu'on n'a pas forcément cités. Le magnésium, le bore, notamment, zinc, peut-être, sur les os, il y a une action, il y a un intérêt, notamment pour aller au-delà
du calcium. Le bore, très intéressant. Alors, en fait, c'est un minéral naturel qu'on trouve dans la nature et puis qui est très riche en calcium, qui va apporter des nutriments essentiels pour réparer l'os. Là, j'ai récemment une patiente qui est naturopathe, donc elle se soigne par elle-même, mais elle demande l'avis du médecin, c'est-à-dire moi-même, c'est moi qui la suis. Comme quoi les naturopathes sont des gens sérieux qui, lorsqu'il s'agit de leur santé ou de la santé de certains de leurs patients, passent par un médecin.
C'est ça la santé intégrative, c'est que vous, les médecins, vous alliez rediriger vos patients qui ont besoin de plus vers les naturopathes, ou, par exemple, ou d'autres professionnels de bien-être, et puis les naturaux, évidemment, la limite de leur exercice les oblige aussi à rediriger vers des médecins.
Mais ils n'ont pas toujours les portes qui s'ouvrent. Hein. Quand ils viennent taper à la porte d'un médecin généraliste, par exemple, ou d'un spécialiste, ils se font parfois rembarrer, voire souvent rembarrer. Ouais. Donc il faut évidemment, c'est ce que je dis à mes amis naturopathes, quand vous voulez travailler en binôme avec un médecin de médecine fonctionnelle, il faut bien sûr que ce soit quelqu'un qui ait un petit peu la même vision de la santé que vous. Et si vous allez vraiment voir le médecin généraliste, déjà qui n'a pas le temps et qui est à 100% sur la médecine allopathique ou conventionnelle, la médecine de pompier, n'est-ce pas ?
La médecine de pompier, oui, tout à fait.
J'étais médecin capitaine des pompiers. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé la petite vidéo que vous avez postée sur YouTube, mon cher Fabrice, Expérience santé, ça vous parle?
Ah oui, ça me parle.
Hein, 60 000 vues sur YouTube.
Fait, exact,
60 000 vues, ça a cartonné.
C'est vrai.
Ça a cartonné. Et c'est vrai qu'en revisionnant, je dis beaucoup médecine de pompier. D'ailleurs j'ai vu que notre ami, l'humoriste.
Jocelyn,
il a repris ça deux, trois fois. Il m'a repris de voler. Et après, je me suis rappelé que j'avais été 3 ans quand même médecin capitaine des pompiers. Donc, Jocelyn, si tu m'écoutes, je suis un vrai pompier dans l'âme,
dans le cœur.
Bon, dans le cœur, j'aime les pompiers.
Bon, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous allez réagir à un propos de notre ami, de notre mentor, peut-être à tous. Et en tout cas, il continue à former beaucoup de gens. Jean-Paul Curté, qui a donné un avis tranché sur l'utilisation du glutathion, en tout cas la complémentation en glutathion.
Oui.
On en parlera la semaine prochaine.
Et oui. On finira aussi l'os, parce que j'ai pas dit
mais
tous les ingrédients.
Ah ben. Oh, mais c'est long ça.
Il y a quelques petits détails à faire, mais ça sera court. On pourra faire les deux, ça j'en doute pas.
Très bien.
Sur le glutathion, on va faire une émission complète sur le glutathion.
Oui, ok, bon, très bien. Allez, on se.
Rendez-vous la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Allez.
Avec le docteur Vincent Renaud. Je relance le générique, le temps de vous dire que cette émission, elle est dispo en podcast sur nutriradio.fr dans la partie médias tout de suite maintenant, et que c'est le retour de la musique.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.